Et un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close. Donc pouvait être ces gosses, cette invasion de petites...
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Romanga, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, à peu près, hein, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture. Sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 28e édition de Romangar, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois dans les studios de Radio B l'auteur oyonnaxienne Sylvie Julian Railleri, dont le livre Louise et autres nouvelles d'elle est paru le 22 mars 2024 aux éditions de La Belle Étoile. Sylvie, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Michel.
Alors, tu étais venue à notre rencontre le jeudi 29 février 2024 pour nous présenter ton premier roman, À l'ombre des tilleuls, paru le 24 mars 2021 aux éditions du Maupassant. Alors, comment vit ce livre ?
Ben, en fait, pas trop mal. Il a su trouver un public auprès des oyonnaxiens qui se sont un peu reconnus dans les lieux et dans les faits. Et puis... un public intéressé aussi par l'histoire en général, puisque ça c'est un roman qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale. Donc finalement, bon, c'est pas extraordinaire, mais bon, il vit pas mal. Voilà.
À l'ombre des tilleuls, a-t-il réussi à franchir les portes des écoles et des salles de classe? Je pense à celles de cours de français et d'histoire-géographie, et pas uniquement celles de ton ancien collège à Oyonnax.
Alors ça, j'ignore complètement. J'ignore complètement. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Tu veux dire que par là, tu le saurais? Ça se saurait?
Pas forcément.
Pas
non.
Forcément.
Non, je ne pense pas qu'il y ait forcément des retours à ce niveau-là. Je ne sais pas.
Bien. Alors, tu as eu l'occasion de faire quelques salons depuis la sortie de ton premier roman. Comment as-tu vécu la rencontre avec tes lectrices et tes lecteurs?
Écoute, c'est assez intéressant de retrouver des gens, parce que j'ai fait des salons depuis... pour d'autres, pour mon dernier ouvrage. Et c'est assez intéressant d'avoir des retours sur les lecteurs, sur les lectures. Les gens ont l'air d'avoir aimé. Disons que les discussions sont plus simples, du coup, c'est assez intéressant.
Tu étais notamment au Salon du Livre de Nantua, à l'espace André Malraux, les 23 et 24 mars 2024, où tu dédicaçais ton premier roman. Mais pas seulement, tu étais à côté de ton nouvel éditeur, me souviens, les éditions de La Belle Étoile, et avec Louise et autres nouvelles d'elle, ton livre paru la veille, il me semble.
C'est ça, je l'ai découvert le jour même du salon.
Voilà. Donc un roman ou des nouvelles attirent le même public?
Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, les ressentis sont différents. Si les gens ont acheté les deux, ils n'ont pas du tout les mêmes réactions. C'est assez étrange. Certains, les lecteurs qui ont aimé le roman ont été parfois plus sceptiques sur les nouvelles. Et inversement, certains ont préféré les nouvelles au roman.
Parce que... on a l'impression que des fois qu'il y a deux publics, le public de romans et le public de nouvelles, parce qu'il y en a qui n'aiment pas les nouvelles du tout.
C'est ça, oui, c'est ça. Et certains sont un peu réticents à l'idée de rentrer dans une histoire et d'en ressortir rapidement. Surtout qu'actuellement, la mode, c'est plutôt au récit très long, les sagas, etc. Alors, je ne sais pas si ça a une incidence sur les lecteurs en général, mais c'est vrai que les nouvelles ne sont pas toujours très, très bien accueillies chez les lecteurs.
Tu as donc changé de maison d'édition puisque ton recueil de nouvelles a été publié aux éditions de La Belle Étoile. Alors, faire éditer des nouvelles, est-ce plus compliqué que faire éditer un roman?
Oui, justement. Parce que les libraires sont persuadés que les nouvelles ne se vendent pas. Donc, ils ne sont pas très chauds pour les diffuser. Donc, finalement, ça a une incidence un peu sur les éditeurs qui eux-mêmes hésitent à se lancer dans ce genre de... d'aventure, on va dire, voilà. C'est pas un genre très, très plébiscité, on va dire. Je trouve ça très, très dommage, mais C'est comme ça.
Alors, les éditions de La Belle Étoile est une maison d'édition de Lons-le-Saunier, ancrée dans son territoire, mais qui publie essentiellement des livres dont la portée n'est pas régionale, mais universelle, parce que c'est marqué sur leur site internet.
Oui.
Hein, l'histoire de ces quatre femmes est aussi est universelle. C'est aussi la raison pour laquelle tu as signé aux éditions de La Belle Étoile.
En fait, je n'ai pas pu continuer avec mon éditrice précédente, puisqu'elle, elle se cantonne à des ouvrages régionalistes. Il m'a fallu donc chercher ailleurs. La Belle Étoile a accepté mon ouvrage parce qu'ils ne se contentent pas effectivement de faire des albums pour la jeunesse ou des écrits un peu régionalistes aussi. Donc bon, ça a été un peu une aventure, mais voilà, c'est passé.
Alors, tu as écrit des nouvelles, d'après si on a écouté l'émission d'il y a un an, tu avais écrit des nouvelles bien avant ton premier roman, À l'ombre des tilleuls. Alors, pourquoi avoir décidé de sortir un livre de nouvelles?
Parce que je suis particulièrement amoureuse de ce genre-là. J'aime beaucoup les nouvelles, en tant que lectrice déjà. J'ai été fascinée vraiment il y a très longtemps par Maupassant, par Buzzati, par un peu plus récemment par Marguerite Yourcenar. Et je trouve que la nouvelle, c'est un genre riche et en même temps qui se réserve, qui ne s'offre pas entièrement. Je trouve que c'est une lecture qui rend le lecteur moins passif. Puisqu'il est court, le récit est court, on ne peut pas tout dire, on est beaucoup dans la suggestion. Et je trouve que le lecteur, du coup, doit, oui, être plus actif, faire preuve de davantage d'imagination.
Donc toi, tu es plus à l'aise dans ce format plus court?
Je suis plus à l'aise là-dedans, ouais. Oui. Je fais rire mon mari en disant que, pour moi, c'est un petit peu la comparaison que je pourrais faire entre un coureur de fond et un coureur de vitesse. Je ne suis pas du tout à l'aise, je n'ai pas de souffle, donc... Les coureurs de fond, moi, je ne peux pas. La vitesse offre d'autres avantages. Et le récit court, c'est un peu ça. Le roman demande plus de délayage, plus de temps. La nouvelle, eh bien, elle se réserve et elle donne tout dans le choix des mots. Le poids des mots est très important. Et c'est ce qui me plaît là-dedans.
Alors, ton livre s'appelle « Louise et autres nouvelles d'elle » et raconte quatre histoires de femmes. Alors, pourquoi quatre femmes?
Ah, pas du tout parce que c'est à la mode, mais parce que j'avais besoin d'un lien quand même. Pour faire un recueil, il faut créer un minimum de liens. Il se trouve qu'une de ces nouvelles, je l'ai écrite effectivement il y a assez longtemps. La deuxième était... engagée avant le roman, et elles portaient toutes les deux l'histoire d'une héroïne. Donc les deux nouvelles suivantes, je les ai bâties sur la même idée, c'est-à-dire un prénom féminin et un destin féminin.
Alors comment as-tu choisi des prénoms des quatre femmes dont tu racontes l'histoire ?
Alors, un peu en fonction du pays où l'histoire se déroule, puisque la première histoire, celle de Louise, se déroule en France. J'avais besoin d'un prénom un peu...
ancien ?
Oui, voilà, un peu ancien, assez neutre malgré tout. La deuxième se déroule en Grèce, donc j'ai choisi un prénom grec. La troisième en Italie, j'ai choisi un prénom italien, proche de celui de ma grand-mère italienne d'ailleurs. Et la dernière, j'ai pas eu le choix en fait, parce qu'elle m'était le prénom m'était imposé par la femme,
par l'histoire. Avec un grand H là.
Voilà.
Alors, dans ton premier roman, À l'ombre des tilleuls, tu racontais déjà une histoire de femme.
Oui.
Augustine en l'occurrence. Si tu n'avais pas décidé d'en raconter plus longuement l'histoire, elle aurait pu faire partie de la liste avec Louise, Irina, Cécilia et Rose?
Non, je crois pas. Non. Non, parce
que. Tu aurais pu en faire une nouvelle?
Non.
Non.
Non, alors là, à l'inverse, non, parce que. L'histoire est différente, elle est basée sur des faits plus ou moins réels que j'ai réaménagés. Ça se déroule sur 4 années. Et là, par contre, j'avais besoin de beaucoup plus de matière, de enfin, non, j'aurais pas pu en faire une nouvelle. Et puis, c'était pas assez percutant, on va dire. La nouvelle, ça doit quand même être quelque chose d'un peu surprenant, d'un peu percutant. Augustine, c'était pas du tout l'objectif, parce que je voulais au contraire marquer cette forme d'attente, de lenteur qu'on peut percevoir justement quand on attend quelqu'un qui est à la guerre. Et justement, la nouvelle, enfin, ça m'est pas venu à l'esprit, là, pour le coup.
Tu dédicaces ton livre de nouvelles « Ces battements d'ailes »
oui.
à ta fille.
Oui.
Elle se retrouve à travers les quatre histoires que tu racontes ?
Je ne suis pas sûre qu'elle se retrouve. En fait, je l'ai dédicacée à ma fille tout simplement parce qu'elle a été, disons, une relectrice, qu'elle m'a donné son sentiment, son avis, qu'elle a une analyse assez fine des faits. Et quand je lui avais demandé son avis sur le titre que je proposais, elle a longuement réfléchi. Non, pas vraiment d'ailleurs. Elle n'a pas tellement longtemps réfléchi. Elle m'a tout de suite dit, eh bien, il faut que tu l'appelles battement d'aile. Alors, battement d'aile, comme le pronom, hein, y a un jeu de mots. Parce que ce sont des femmes qui sont des battantes, parce que à leur, chacune à leur manière, elles portent une histoire assez forte. Et mon éditeur n'a pas voulu de ce titre, qu'il n'a pas trouvé assez, on va dire, clair, assez explicite. Et pour ne pas le laisser perdre, eh bien, je l'ai inséré dans la dédicace pour ma fille. Voilà.
D'accord. Alors, tu joues avec le mot « elle », hein, tu le disais,
oui,
que ce soit
oui.
dans le titre de ton livre, « Louise et autres nouvelles d'elle », E2LES, et ses dédicaces à ses battements d'aile, également E2LES, c'est aussi cette envie, de, presque ce besoin d'indépendance que tu racontes dans ces quatre histoires.
Oui, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire, moi j'ai besoin de m'affranchir, d'être libre. Pour moi, la liberté, ça a toujours été mon moteur, essayer de m'affranchir des autres, de continuer à être ce que je suis. Voilà, c'est une forme de combat personnel, on va dire.
Alors, pour ta fille aussi, il est question d'indépendance. Tu avais besoin de lui dire « envole-toi ».
Oh, elle est déjà un peu partie, ma fille. Elle est grande et elle vit à Lyon seule depuis plusieurs années. Non, j'avais envie de l'intégrer dans cette histoire, oui, parce que elle aussi, elle est effectivement assez indépendante.
Alors, il est question dans ton recueil du destin donc, de quatre femmes qui s'engagent à chaque fois dans une aventure, hein, la littérature, la passion amoureuse, la maternité et la célébrité. Mm-hmm. Alors, pourquoi ce choix de quatre sujets bien différents, même s'ils ont un lien commun qui est l'amour sous toutes ses formes, finalement ?
Oui, c'est ça, oui. Alors, les liens, c'est effectivement l'amour, c'est le prénom qui joue aussi le lien. Après, j'ai besoin à chaque fois d'entamer des choses sous des angles différents pour aborder justement la vie sous ses différentes formes. Après, c'est aussi parce que j'ai choisi des genres littéraires différents. C'est-à-dire que le premier, qui est plus littéraire, aborde un petit peu un genre, enfin, flirte avec le genre fantastique, on va dire. Le deuxième texte, lui, il est plus, j'allais dire, poétique, peut-être, parce qu'il m'est inspiré par la Grèce, qui est un pays qui me fascine. Et plus particulièrement l'île de Santorin, qui est le lieu où se déroulent les événements, qui est un lieu très propice à la tragédie, en fait. C'est pour ça que cette histoire d'amour qui est racontée dans le récit vire à la tragédie. Donc le genre est différent du premier. On est plus proche d'une version d'un texte un peu, bon, c'est pas une tragédie, mais voilà, c'est une poésie un peu tragique. Le troisième texte, c'est un texte volontairement très réaliste, Et le quatrième, je l'ai voulu un peu différent encore, sous forme d'une nouvelle un peu surprenante, ce qu'on appelle une nouvelle à chute. Donc voilà, il y a des liens, mais je ne voulais pas que ce soit trop uniforme. Il fallait quand même que ça, chaque texte existe de manière indépendante.
Les quatre sujets que tu abordes sont-ils autobiographiques ?
Non. Non, mais par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me détacher de mes voyages ou de ce que j'ai vécu pour écrire. On a tous besoin, je suppose, de faire intervenir un peu de soi dans ces récits. Et c'est vrai que le premier texte, en fait, c'est mon domaine. La littérature, c'est mon métier. Enfin, Balzac m'a toujours beaucoup intéressée. Donc, c'était évident qu'il y a une part de moi là-dedans. Le deuxième texte qui se déroule à Santorin, c'est effectivement un voyage que j'ai effectué il y a quelques années et qui m'a beaucoup marquée de par la dureté du paysage, ce côté effectivement très minéral, très... Voilà, c'est superbe. C'est effectivement un lieu où on se dit, effectivement, là, il y a des choses tragiques qui peuvent se dérouler. Voilà, donc le troisième qui se déroule en Italie, effectivement, est inspiré d'une histoire un peu familiale. Quant au dernier, je le dois beaucoup à mon mari et aussi à l'urgence, parce que finalement, je l'ai écrit très rapidement, le dernier texte, je l'ai écrit en 3 jours. Et c'est plutôt, alors là, pour le coup, pas vraiment un vécu, mais un peu un clin d'œil que je fais à mon mari là-dedans.
La pochette de Louise et autres nouvelles d'elle est une peinture de 1910 signée du petit-fils de Victor Hugo, Georges Victor Hugo, Dora vue de dos. Alors pourquoi avoir choisi ce tableau exposé au musée d'Orsay ?
Alors, parce que cette femme que l'on voit de dos n'a donc pas de visage précis. On ne peut donc pas lui attribuer une identité vraiment définie. Donc elle pourrait très bien être ces quatre femmes, finalement, puisqu'on voit une nuque. Elle peut être en train de lire, en train d'écrire. En plus, j'ai trouvé ce tableau magnifique. Je le trouve très, très beau. Et il allait bien avec disons, l'image que je pouvais donner à ces quatre femmes.
L'histoire de Dora Victor Hugo aurait mérité une nouvelle ?
Peut-être. Je n'y ai pas pensé, peut-être, effectivement. C'est... Oui. Peut-être que le prénom lui donnait une identité à laquelle je n'ai pas pensé.
D'accord. La première nouvelle de ton recueil donc, raconte l'histoire de Louise sur près de 80 pages sur, 120, sur un total de 140 que contient ton livre. Cette nouvelle s'appelle Louise ou ceci n'est pas un roman. Il aurait pu l'être. T'aurais pu en continuer l'écriture ?
Oui. Ouais. En fait, oui. Quand je l'ai commencé, je l'ai fait très court. Mon premier comité de lecture, si je puis dire, m'a reproché un peu cette brièveté. Je l'ai donc repris en me disant, ben, c'est vrai qu'il y a peut-être matière à en faire un roman. Et plus j'avançais dans ce roman, plus je me disais qu'il perdait en force. Donc j'ai voulu garder mon idée première qui consistait à faire une nouvelle. Bon, il se trouve que cette nouvelle est effectivement longue. Il existe dans les écrits d'autres nouvelles longues. Mais quand je l'ai intitulée « Ceci n'est pas un roman », c'était un clin d'œil que je me faisais à moi-même. Et aussi pour jouer un peu avec... ceci n'est pas une pipe, le fameux tableau. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil.
Alors la première nouvelle raconte l'histoire de Louise et nous fait entrer dans l'intimité méconnue d'Honoré de Balzac à travers une énigme littéraire aux accents fantastiques. Le choix d'un des plus grands écrivains français de tous les temps n'est pas un hasard, sa vie aussi est un roman.
Oui, c'est vrai, c'est extrêmement riche. Je pense que on pourrait feuilleter sa vie indéfiniment pour en trouver toutes les subtilités. Et puis, je trouve que c'est un personnage fascinant qui a tellement écrit et tellement de choses riches. Et cette correspondance donc, qui intervient dans mon histoire est aussi tellement riche. Effectivement, on pourrait... j'aurais pu en faire des tonnes et des tonnes. Mais bon, la difficulté d'écrire sur un personnage comme ça, pas un personnage, mais une personne, donc en faire un personnage après, c'est qu'il est tellement connu, il y a tellement de recherches qui ont été faites sur lui, qu'on ne peut pas se permettre de faire une ultime recherche non plus, ça n'aurait aucun intérêt, mais aussi on ne peut pas se permettre trop de bêtises. Il faut rester dans un cadre quand même cohérent, on va dire. Et c'est pour rester paradoxalement dans ce cadre du cohérent que j'ai flirté avec le fantastique, parce que du coup, on peut se permettre des petits écarts, des petites fantaisies, voilà, qui ne sont pas forcément très, très, très réalistes.
Donc Louise, cette fameuse Louise, mène l'enquête et se promène à travers l'Europe, à travers les musées consacrés à la vie de Balzac, et à travers cette librairie et ce monsieur étrange. Voyager à travers le temps tout en restant au XXIe siècle, ça sent bon les romans d'anticipation, ça ?
Je ne sais pas. Pourquoi l'anticipation ?
Oui, ils appellent ça anticipation, on pourrait appeler ça fantastique, science-fiction,
ouais.
C'est presque de l'ASF.
Non, parce que dans
le fantastique, en tout cas.
Oui, c'est le fantastique, on est d'accord, oui.
Ouais. On voyage à travers le temps, là. Il manque plus que la voiture du docteur, du doc, la DeLorean, et puis on y est, quoi.
Peut-être.
On y est.
D'une certaine façon, oui, mais encore une fois, c'était intéressant de voyager parce qu'il y a une forme d'enquête et que. C'est plus cohérent comme ça, et puis parce que ça me permettait d'utiliser des lieux que moi-même j'ai visités.
Mmh. Alors, la deuxième nouvelle s'appelle « Irina ou le regard dans le cadre ».
Oui.
Où nous emmènes-tu et qui est cette femme ? Donc là, c'est la Grèce.
Oui, alors là, je vous emmène à Santorin, donc.
Ouais.
En fait, il y a un double lieu aussi, puisque l'histoire est basée sur ce qu'on appelle... une analepse, c'est-à-dire un retour en arrière. Le cadre, c'est le... En fait, il y a un double cadre. Celui qui est le cadre du passé, c'est-à-dire cette île de Santorin, et le cadre du présent, qui est une fenêtre qui fait face au personnage qui est muré dans sa vieillesse, éventuellement dans une prison, et qui se souvient donc de sa jeunesse.
Mmh. Donc Irina est une nouvelle qui se rapproche un peu du thriller, un peu du roman noir, non ? On pourrait ?
Si on veut.
Ouais.
Si on veut. Je l'ai pas vu comme ça, mais pourquoi pas, effectivement. C'est plutôt, comme je le disais tout à l'heure, une histoire d'amour tragique.
Mmh.
Puisque la fin est...
Mmh. Roman noir, ouais.
Oui.
Ouais, ouais. Mmh. Ouais. Donc, j'ai écrit, on reste en Italie, mais non, on était en Grèce. Donc, après, on n'est pas loin. Ça reste quand même la Méditerranée.
Oui.
On reste et le soleil. Et la lumière qui va avec. Parce que Santorin, c'est aussi la lumière qui va avec. Et ce bleu. D'un bleu. Hein, voilà. Donc, on reste en Italie avec Cécilia.
Mmh.
Ton nom de jeune fille, Raieri, trahit tes origines italiennes.
Certes.
L'histoire d'Irina et de Cécilia. Enfin, l'histoire de Cécilia est un peu ton histoire et celle de tes ancêtres, j'ai écrit.
Alors, la mienne, non.
Oui.
Celle de mes ancêtres, probablement, oui, effectivement. Ouais. Puisque mes ancêtres, enfin mes grands-parents, étaient originaires de l'Italie du Nord. Et l'histoire se passe effectivement plutôt là. Puisque, contrairement à la précédente, il y a quand même moins de soleil dans cette troisième nouvelle. Et l'Italie du Nord est souvent aussi un lieu un peu âpre, un peu froid parfois même.
Il y a des montagnes, oui.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Le vent, il souffle froid. Et donc ce personnage, effectivement, pourrait être inspiré effectivement par mes ancêtres.
Donc il est question de maternité avec Cécilia.
Oui.
Alors, pourquoi est-elle en dehors du cadre ?
Eh bien, parce que justement, elle déborde. Elle ne fait pas ce que on est supposé attendre d'elle. Elle n'est pas une jeune femme sérieuse.
Elle est sérieuse, mais...
comment dire ? Elle déborde, elle fait des... Elle ne rentre pas dans ce qu'on attend d'une jeune fille de l'Italie des années 20.
Alors, l'histoire de Cécilia, c'est aussi celle de ces femmes dans des familles très très nombreuses et puis dont le rôle était de s'occuper du foyer, hein, comme de vulgaires boniches avec un père tyrannique et violent et qui n'avait aucune considération pour elles. Leur corps leur appartenait à peine.
Oui. Hein,
on peut presque parler d'esclavage.
Bon, je pense que c'est peut-être un peu excessif le mot esclavage, ouais. Mais c'est vrai que le rôle des femmes à cet endroit-là et à cette époque-là était probablement jamais choisi. Quoi. C'était une destinée qui était celle de... Voilà, on était nés dans les montagnes, on vivait au rythme de la montagne et des familles qu'on devait élever. Oui, il n'y a aucune liberté. Moi, je fais de cette femme quelqu'un qui a envie d'évasion et qui est coincée par le poids des conventions, par le poids de la famille, par les regards que l'on peut porter sur elle. Alors, l'esclavage, c'est peut-être trop, mais effectivement, quelqu'un qui n'est pas libre de sa vie, quoi, ni de son destin.
Encore une notion d'indépendance.
Voilà.
Donc on termine le livre avec Rose qui n'est ni dans le cadre, ni hors du cadre, et encore moins en Italie, même si l'héroïne y a séjourné,
oui.
Hein, et qui ne vit pas dans la misère,
ah non.
Hein, par rapport au deuxième et troisième,
oui.
Pas une certaine misère. Mm-hmm. Où nous fais-tu voyager et qui est cette femme qui n'en faisait qu'à sa tête ?
Alors, si je dis qui est la femme, oui, en question, je gâche un peu la fin, puisque bon, effectivement, le texte, il est bâti sur la révélation de qui est ce personnage. On va l'appeler Rose, puisque voilà. Elle s'appelle Rose. Mmh. Et donc, le cadre, c'est la Martinique. Et donc, effectivement, qui est un cadre différent. Je n'y suis pas allée, par contre, même si j'ai séjourné quelque temps en Guadeloupe, donc ce qui m'a permis effectivement d'être peut-être un peu plus sensible aux odeurs et aux couleurs qu'on peut trouver dans ces îles. C'est vrai que c'est une héroïne qui, elle aussi, est coincée par l'idée de ce qu'elle doit devenir. Et je l'ai bâti un petit peu comme un personnage inattendu, on va dire, pour préparer un peu la fin d'ailleurs. Donc une enfant un peu gâtée, un peu rebelle, qui est contrainte elle aussi de rentrer dans le moule et qui est rattrapée par son destin en fait.
Il y a aussi un côté presque fantastique dans cette nouvelle. Presque.
Oui,
parce que,
presque.
Parce qu'il est question d'une devineresse.
Oui, d'une voyante.
Le féminin de devin. Voilà.
C'est ça, oui. Ouais. Mais ça, c'est un détail que je n'ai pas réellement inventé. À savoir, pour bâtir l'histoire, j'ai dû lire l'histoire avec un grand H. Voilà.
Donc l'histoire de Rose, c'est aussi pour rappeler qu'il n'y a pas que les hommes qui sont célèbres.
Et voilà. Hein? Mais c'est un peu une... Enfin, le recueil en entier est un peu une... J'allais dire une vengeance, c'est un peu fort, mais j'ai toujours été, dans mes lectures d'enfant, j'ai toujours beaucoup lu, et finalement on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de héros, les héroïnes pas trop. Donc voilà, c'est une façon de rééquilibrer les choses et de redonner à ces femmes un rôle plus important.
Alors, depuis que tu écris et depuis que tu publies, ton envie d'écrire et de lire est la même ?
Mon envie d'écrire, elle est assez, je dirais, ça fluctue. Parfois, je me lance dans l'écriture avec beaucoup d'aisance en me disant ça va venir, ça va remarcher, ça va être bien. Ça. Et puis après, voilà, l'histoire du coureur de fond, hein, je m'épuise et j'ai moins d'imagination, on va dire. Ou alors je me dis, ça ne sera pas forcément très bien. Je pense que j'ai un côté un peu exigeant qui me freine. Et en ce qui concerne la lecture, je me suis rendu compte que je lisais bien moins qu'avant. Alors, je ne sais pas si c'est lié.
Parce que les autrices et auteurs disent en général.
Ah oui.
Ouais, ouais. Donc, ton dernier livre date du 22 mars 2024. Tu es dans la préparation de nouveaux romans, d'autres nouvelles. Quelles sont tes envies littéraires ?
Alors là, j'ai deux textes en attente. Un que j'ai baptisé « Expressionnaire », qui est une liste d'expressions qu'utilisait ma grand-mère. Je voudrais donc trouver à faire correspondre ces expressions avec des illustrations. Un autre roman qui est terminé depuis le printemps, qui est en attente d'éditeur. Ça, je maîtrise pas. Et actuellement, je me suis lancée aussi dans un autre roman. Mais alors là, pour le coup, j'ai un petit peu de mal.
Bien. Tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicace. Il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle. Là sur le quai, épaule contre épaule. Sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure. Sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates des prochaines séances dédicaces. Sylvie, quel est ton dernier coup de cœur littéraire ?
Alors, mon dernier coup de cœur littéraire, je crois bien que c'est le Barman du Ritz. Ça te dit rien ?
Ça me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à voir...
C'est un auteur qui, au départ, est un historien. Il s'appelle Philippe Collin. Et il est spécialiste de la période de la Deuxième Guerre mondiale. Et il s'est lancé dans un roman qui met en évidence le barman du Ritz, avec cette position délicate qu'il avait de servir des soldats SS... Bon, qu'on a un peu accusé après d'avoir été un peu collaborateur, mais qui a su quand même aussi jouer un rôle un peu plus, on va dire, résistant, plus ou moins contre son gré d'ailleurs. Donc c'est intéressant, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce que le personnage n'est pas... Il est très coloré, il n'est pas monochrome, il est pas, on peut pas se dire ni pour ni contre lui. C'est assez bien vu et c'est très très documenté au niveau historique. Donc j'ai trouvé ça assez riche.
Le titre ?
Le Barman du Ritz.
L'auteur ?
Philippe Collin.
Côté proposition de la quinzaine, alors notons les livres de Bernard Courtebras, La femme du lieutenant et Tentative, aux éditions Nombre 7 et qui sera le prochain invité de Roman de Gare le jeudi 23 janvier 2025. Alors il y a le polar de Joachim B. Schmidt-Kallmann aux éditions Folio Policier, le roman noir de Pascal Dietrich, L'agent aux éditions Liana Lévy, le polar de Sébastien Julien, La seconde lame aux éditions L'oiseau noir, le roman d'Antonio Lanzetta, La mort en face chez Mera Éditions, le livre de David Cormand, Temps de cerveau libéré, en finir avec la publicité, aux éditions Les Petits Matins. Le roman de Gwen Guillin, La maison dite Biscornue, aux éditions du Penseur. Le thriller d'Olivier Merle, La chambre des ombres, chez XO Éditions. Et le roman d'Harry Lovenbruck, Pour ne rien regretter, toujours chez XO Éditions. Pour terminer l'émission, les dates de rencontres et de séances dédicaces. Avant de les annoncer, as-tu, toi, de ton côté, des séances et des rencontres, séances dédicaces et des rencontres dans la région proche à annoncer ?
Non, pour le moment, je n'ai rien. Mon prochain événement, si je puis dire, c'est au mois de mars et c'est à Mâcon.
Bien.
Voilà, je suis invitée à participer au festival Au Féminin qui va donc pouvoir traiter justement des problèmes de... Enfin, c'est en liaison avec la Journée de la Femme.
D'accord. Voilà. Allez, annonçons les concerts de la semaine. Là, les concerts, non.
Non, pas les concerts.
C'est en dédicace de la quinzaine. Le premier, le samedi 11 janvier, à la médiathèque La Passerelle à Trévoux, atelier d'écriture spéciale polar avec Sylvie Calais de 14h30 à 17h30. Elle sera avec notre invitée le jeudi 6 février.
Et à la librairie Les Cultures Papier de Charbonnières-les-Bains, Jacques Maurice de 10h à 12h30.
Il était avec toi au salon d'Attigna il y a un an déjà.
Il y a un an, oui. Voilà.
Le jeudi 16 janvier 2025, à la librairie La Mandragore à Chalon-sur-Saône, Olivier Norek à 19h30.
Et Olivier Norek qui se retrouve le vendredi 17 janvier à la FNAC Bellecour-Lyon à 17h.
Le samedi 18 janvier 2025 à la médiathèque La Passerelle à Trévoux, toujours l'atelier d'écriture spéciale polar avec Sylvie Calais de 14h30 à 17h30.
Et à la librairie Montbarbon de Bourg-en-Bresse, Philippe Ridet de 15h à 18h.
Voilà, qui est invité au mois de septembre. Eh bien... Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Sylvie, Julien, Railleri, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Terminus des Prétentieux.
Eh ben, merci à vous.
Alors rappelons que ton polar, Louise et d'autres nouvelles d'elle est paru le 22 mars 2024 aux éditions La Belle Étoile. On peut se le procurer où, sans oublier ton premier roman, À l'ombre des tilleuls?
Eh bien, dans toutes les bonnes librairies, ainsi qu'à la FNAC, chez Cultura, et évidemment auprès des éditeurs eux-mêmes.
Bien. On peut suivre ton actualité sur Internet
Non, je ne suis pas très, non, pas très assidue.
Sur le site de la Belle Étoile, peut-être?
Peut-être.
Alors, le prochain invité de Roman de Gare, le jeudi 23 janvier 2025, sera l'auteur indinois, oui, Bernard Courtebras. Il nous présentera ses deux derniers livres, La femme du lieutenant et Tentative, parus respectivement le 28 novembre 2022 et le 25 2024 chez Nombre 7 Éditions. Sylvie, bonne chance pour la suite de tes aventures.
Merci beaucoup.
D'auteur.
Bien noté. Voilà. Oui, et pas autrice. Oui.
Voilà, bonne séance dédicace.
Merci beaucoup.
Et à bientôt sur Radio B.
À bientôt, au revoir.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la Bible.